Lizzie présente U4 Corridouane de Yves Grevet, lu par Claire Barada. Une. 7 novembre. Comme tous les autres jours, je me suis levée tôt pour nourrir les bêtes. Ce matin, c'était au prix d'un très gros effort. Je n'ai pratiquement pas fermé l'œil de la nuit. À mesure que le temps s'écoulait, mes pensées devenaient plus sombres et plus désespérées. Vers 4 ou 5 heures, j'ai débouché le flacon de poison et je l'ai porté à mes lèvres. Avant d'avaler la première gorgée, je me suis fixé un ultimatum. Corridouane, si tu ne trouves pas dans la minute une seule raison de ne pas en finir, bois-le. Et là, au bout de longues secondes de noir complet, j'ai vu apparaître dans un coin de mon cerveau la grosse tête de la vieille bergamote. Jamais elle ne parviendra à mettre bas sans mon aide. Je la connais. J'étais là la dernière fois et ça n'avait pas été une partie de plaisir. Si je ne suis pas à ses côtés, elle en crèvera, c'est sûr. Elle et son petit. Alors c'est pour cette vache que je suis encore vivante à cette heure. Après son vêlage, il faudra donc que je me repose la question. Depuis que je suis la seule survivante du hameau, je fonctionne comme un robot, sans jamais réfléchir. J'alterne les moments d'activité intense et les temps morts où, prostrée dans un coin, je ne fais que pleurer ou me laisser aller à de brefs instants de sommeil. Je continue à traire mes bêtes, mais je répands le lait dans la rigole. Si j'arrêtais la traite, elles souffriraient quelque temps, puis leur production stopperait d'elle-même. Je continue à le faire, parce que ça m'occupe l'esprit, et me donne l'illusion que la vie suit un cours presque normal. Je change les litières, je remplis la brouette avec la paille souillée. L'odeur est forte, mais elle est rassurante. Le poids de la charge tire dans mes épaules. Ça m'épuise vite, et le soir, cela m'aide à trouver plus facilement le sommeil. C'est une tâche fastidieuse et pénible, mais on voit le travail avancer, et à la fin, on a le sentiment du devoir accompli. Les bruits de la campagne ont changé depuis 2 semaines. Le silence n'est plus troublé par le bourdonnement des voitures et des engins agricoles. Pourtant, il y a quelques minutes, j'ai cru entendre un véhicule approcher. Puis plus rien. Je suis sortie pour voir, mais il n'y avait personne. Je commence peut-être à perdre la boule. J'étale maintenant de la paille propre sur tout le sol de l'étable. Les bêtes sont soudain nerveuses, comme avant un orage ou lorsque des temps les agressent l'été. Je sursaute en sentant une présence derrière mon dos. Ce sont 2 gars, à peine plus âgés que moi. Ils se ressemblent. Peut-être sont-ils frères? Je reconnais l'un des deux. Je l'ai vu en ville plusieurs fois avant la catastrophe. Il traînait avec d'autres à l'entrée du mini-market du centre. Il sirotait des bières et faisait la manche. Je ne suis donc pas la seule dans les parages à avoir survécu. J'en éprouve une sorte de soulagement. Mais ce n'est pas avec eux que je vais pouvoir rompre ma solitude. Le regard qu'ils posent sur moi me glace le sang. Je ressens leur hostilité et leur malveillance. C'est le plus vieux qui m'interpelle en grimaçant.
On a besoin d'outils, du genre perceuse-viseuse, scie circulaire, marteau, hache, tronçonneuse. On a des portes et des volets à faire sauter dans le coin.
Vous n'êtes pas chez vous ici, et vous n'avez aucun droit, dis-je en relevant la fourche pour les menacer.
Hé, hey, la gamine, reprend le gars en colère. Tu vis sur une autre planète ou quoi? C'est fini tout ça. Tout le monde est mort sauf quelques jeunes de notre âge. Maintenant, plus rien n'appartient à personne. Si on veut survivre, on doit se servir. Ceux qui voudront rester honnêtes crèveront.
Pourquoi vous n'allez pas ailleurs? Ce ne sont pas les hameaux désertés qui manquent dans les environs.
Ici, on savait qu'on trouverait de la compagnie, lance le plus jeune. Il paraît que sous ta salopette de paysanne se cache un corps de déesse. Arrête tes conneries, Kev. On n'est pas venu pour ça. Toi, la petite, magne-toi de répondre ou ça va chauffer.
La clé de la pantie est sur la porte.
Merci, ma belle. Le jeune Kevin m'adresse un regard qui signifie que je ne perds rien pour attendre. Je fais mine de reprendre ma tâche et je baisse les yeux. L'aîné est sorti et l'autre me surveille. Je m'approche pour répartir la paille à quelques mètres de lui. Il finit par se lasser de me contempler et se tourne vers la cour. Je me jette alors sur lui, la fourche en avant, et lui plante deux pointes dans la cuisse gauche. Ses genoux plient sous la douleur et il s'écroule à mes pieds. Il semble manquer d'air et ne parvient pas à crier. Je le contourne et cours jusqu'au râtelier planqué dans un placard de l'arrière-cuisine. J'attrape un des fusils de chasse avec lesquels mon père m'a initié au tir. Je le charge avec des cartouches qui étaient cachées dans le bahut du salon. Je ressors, pénètre dans l'appentis et tire à deux reprises au-dessus de la tête du pillard qui lâche ce qu'il avait pris. Il a la trouille et son visage vire au gris. « Va récupérer ton frangin et barrez-vous d'ici, sinon je vous abats comme des lapins !» Il a compris et se précipite dans l'étable pour ramasser son frère qui chiale maintenant comme un gamin. Il parvient à le relever et glisse son bras sous son épaule. Il s'éloigne sur le chemin de terre pour rejoindre leur voiture qui était garée en contrebas de la départementale. Je ne peux me retenir de lancer un conseil. « Ne tarde pas trop à nettoyer sa plaie, sinon ça va s'infecter !» Sans se retourner, l'aîné lève sa main gauche, le majeur pointé vers le ciel. Cela faisait 2 jours que je n'avais pas rencontré un humain vivant. Le dernier habitant d'ici est mort avant-hier. Il s'appelait Ifig. C'était un homme pragmatique. Dès qu'il a appris par la télé l'ampleur de l'épidémie provoquée par le virus U4, il s'est préparé au pire. Il s'est rendu chez Kiloutou pour louer une pelleteuse avec un godet adapté pour creuser les tranchées. Avec son engin, nous avons inhumé les 9 autres personnes du hameau. Il m'a montré comment l'utiliser au cas où j'en aurais besoin. Il a eu bien raison, parce que c'est moi qui l'ai enterré. J'en ai profité pour creuser mon propre trou. Quand le mal me rattrapera, ou bien que je n'en pourrai plus, je plongerai dedans. Et tant pis s'il n'y a personne pour m'ensevelir à ce moment-là. 8 novembre. Encore une nuit sans vraiment dormir. Depuis le passage des 2 voleurs, je me sens en danger. J'ai compris à leur regard haineux qu'ils reviendront pour me punir de les avoir humiliés. Je partage maintenant mon lit avec ma carabine chargée et je guette le moindre bruit. L'envie d'aller retrouver les autres dans la mort continue de me hanter. Ce qui me retient d'en finir, ce n'est pas la peur du grand saut. C'est le sentiment de commettre une faute, de transgresser un ordre naturel, selon lequel on ne décide pas soi-même de la fin de son existence. Ma grand-mère m'a toujours enseigné que la vie était précieuse, celle des hommes comme celle des animaux, ou même des plantes. On ne peut s'autoriser à la supprimer qu'en cas de nécessité absolue. Elle disait que nous étions les cellules vivantes d'un grand organisme qu'on appelle la Terre, qu'on y jouait tous notre rôle. Je le ressens chaque matin quand je m'occupe des bêtes. Leur chaleur, leur odeur, leur meuglement, tout semble à sa place. Que deviendraient mes animaux si je les abandonnais? Je n'ai jamais assisté à la souffrance d'une vache qu'on a soif ou qu'on laisse veiller seule. Depuis que je suis en âge de me souvenir, j'ai vu mon père chaque matin et chaque soir auprès de ses bêtes. Je l'ai vu y aller même quand il tenait à peine debout parce qu'il avait abusé d'alcool fort avec ses potes durant la nuit. C'était comme un devoir sacré auquel rien ne permettait de se soustraire. Maintenant qu'il n'y a plus que les animaux ici, je devrais être contente, moi qui ne cessais de répéter que je les préférais aux humains, parce qu'ils sont plus simples à comprendre et à satisfaire. Eux ne se cachent pas derrière les granges pour pleurer, ou ne deviennent pas hystériques parce qu'une tache de vin a résisté à un passage en machine. Mes parents me manquent. Cette phrase, jamais je n'aurais pensé la prononcer il y a encore quelques semaines. Depuis 4 ou 5 ans, je n'avais plus qu'une idée en tête. Fuir cette baraque sinistre que je qualifiais même de tombeau. Aujourd'hui, où la quasi-totalité de l'humanité a disparu, cette expression me fait honte. Je me sens coupable de l'avoir utilisée si facilement. Ceux qui croient aux signes pourraient aller jusqu'à dire que c'est ma faute si mon hameau s'est transformé en cimetière. À 5h30, je décide de me lever. Je saisis ma torche et je traverse le champ pour rejoindre Bergamote qui s'est isolée des autres. Je croise son regard. Si elle semble si paisible, malgré l'épreuve qu'elle sent venir, c'est qu'elle sait qu'elle peut compter sur moi.